À Kaniasso dans le Folon et à Daokro dans l'Ifou et partout en Côte d'Ivoire et vous suivez le journal de Radio de la Paix dont voici les titres. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou, est décédé ce lundi 8 avril 2024 à l'âge de 72 ans. Plus de détails dans cette édition. Et puis à Daokro, les membres des comités de paix en médiation ont été formés par le NDI dans le cadre du projet Cordial. Nous y reviendrons dans cette édition. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma connaîtra demain mardi son sort sur sa participation ou non aux prochaines élections générales de mai 2024. Voici pour l'essentiel. Ouvrons ce journal par une note de tristesse. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou, est décédé ce lundi 8 avril 2024. Il avait été nommé à ce poste par le président de la République, Alassane Ouattara, le vendredi 21 juillet 2023. Magistrat hors hiérarchie groupe A, échelon unique, il a été précédemment président du Conseil constitutionnel de février 2015 à juillet 2023. Mamadou Kone a été aussi ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de février 2010 à décembre 2011. Il a aussi occupé plusieurs postes clés au ministère de la Justice sous différents régimes. Mamadou Kone a gravi patiemment tous les échelons pour atteindre ce poste prestigieux. Sa carrière exemplaire et son expertise ont fait de lui un acteur majeur dans le système judiciaire ivoirien. Autre chose à présent, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ce lundi 8 avril. Au centre des échanges, le renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte-rendu de cette rencontre avec Mel Emmanuel.
Le partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la France était l'un des sujets centraux de cette rencontre entre le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qui a tout de suite mis en avant les avancées économiques réalisées par la Côte d'Ivoire grâce à cette relation bilatérale. Stéphane Séjourné.
Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises.
De son côté, le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de rappeler la proximité entre les deux pays et a également exprimé la gratitude de la Côte d'Ivoire à l'endroit de la France.
Nous sommes très 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 heureux d'accueillir M. le ministre et de dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement. Et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer.
Avant d'être reçu en audience par le président de la République, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a rencontré la diaspora française en compagnie de son homologue ivoirien, Léon Adam.
À Grand Bassam, les services d'état civil de la mairie seront désormais équipés du logiciel d'état civil CityWeb. Le maire de la cité balnéaire a reçu officiellement ce lundi 8 avril 2024 ses supports numérisés. Cette action de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet de modernisation de l'état civil à travers l'utilisation de ce nouveau logiciel national, nous dit Jean-Claude Mabéa.
Les raisons du choix de la commune de Grand Bassam pour cette phase pilote ont été expliquées par le directeur général de l'ONESI, Ago Christian Koudia.
Grand Bassam parce que déjà c'est une des premières capitales de la Côte d'Ivoire et aussi les registres les plus anciens qui ont besoin d'être numérisés se trouvent à Grand Bassam. C'est une ville historique, mais aussi vous voyez que Grand Bassam est en bordure de mer. Et donc quand on parle de bordure de mer, on parle surtout de l'humidité, de ce qui peut affecter plus facilement du papier. Et donc il était important pour nous de nous confronter dans la phase pilote à ce qu'il y a de plus difficile et à ce qu'il y a qui peut nous permettre de voir le maximum d'actions à faire pour que nous puissions être sûrs que ce que nous allons déployer soit vraiment de meilleure qualité. Donc nous allons très rapidement déployer pour couvrir tous les centres d'état civil du pays.
Après réception du logiciel, Jean-Louis Moulot, le maire de Grand Bassam, s'est félicité du choix de sa commune pour cette phase pilote du projet avant de vanter les performances et la célérité de cet outil dans le traitement des actes d'état civil.
Bien, nous sommes ravis d'avoir été retenus pour la phase pilote. Les bénéfices sont nombreux pour notre ville. D'abord, un renforcement des capacités des agents de l'état civil, une familiarisation aux nouvelles technologies. Ensuite, ça nous permet d'avoir une plus grande célérité, une plus grande efficacité dans le service aux usagers. Aujourd'hui, à Grand Bassam, les actes d'état civil sont délivrés dans un délai maximum d'une heure, de sorte que les usagers n'ont pas à patienter. En toute sécurité également, puisque les actes sont numérisés et ça limite les risques d'erreurs humaines ou de manipulation. Dans le cadre de ce partenariat, nous entendons aller plus loin avec la dématérialisation des demandes d'actes également, qui est la phase suivante.
Ce sont au total 250 centres d'état civil du pays qui sont couverts par ce projet.
Direction San Pedro, où l'opération de recensement général des entreprises et établissements lancée officiellement le 23 février dernier se poursuit dans la région. Initiée par l'INS, Institut National de la Statistique, cette opération permettra au gouvernement ivoirien de s'appuyer sur des statistiques fiables et actualisées pour mieux orienter les stratégies de développement, surtout au plan local. Pour une adhésion des entreprises, une caravane de sensibilisation accompagne cette opération. Flora Yuzan, directrice en charge du répertoire des entreprises à l'INS, revient sur quelques objectifs de ce projet au micro de Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
L'opération de collecte va s'étendre dans la région de San Pedro sur une durée de 2 mois. Quand on prend la richesse qui est créée chaque année, on se rend compte que près de la moitié de cette richesse est produite par le secteur informel. Ce sont des petites unités qui réalisent leur activité au jour le jour pour pouvoir subvenir à des besoins de base. Donc, l'objectif de ce recensement, c'est de faciliter l'accompagnement par le gouvernement du secteur privé. Le recensement général des entreprises et établissement est une opération qui est obligatoire. Donc pour les entreprises qui hésitent encore à se faire recenser, quand on prend les unités économiques informelles, elles ont beaucoup plus d'avantages parce qu'avec cette base de données qu'on aura, elles auront une meilleure prise en charge au niveau administratif pour faciliter les différentes procédures. L'accès au financement sera plus aisé et aussi certaines politiques d'accompagnement de l'État en termes de formation. Parce qu'on parle de financement, c'est vrai, mais l'élément de base, c'est la formation. Chaque entreprise compte, donc participons tous au RGC pour une économie ivoirienne plus forte.
Après la région de San Pedro, ce sont 25 autres régions qui participeront à ce recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. Un atelier de formation des membres des comités de paix en médiation s'est tenu à la mairie de Daoukro les 4 et 5 avril dernier à l'initiative de l'Institut national démocratique NDI dans le cadre du projet Cordial. Cet atelier vise à renforcer la résilience et la réconciliation par le rapprochement des communautés dans les zones affectées par les violences politiques de 2020 afin de prévenir de nouvelles violences au cours des élections futures. Plus de détails sur l'activité avec notre correspondant sur place, François Kra.
Les membres ont été instruits sur la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, les techniques de médiation, les qualités d'un bon médiateur et bien d'autres modules en lien avec la gestion pacifique des conflits. Hervé Tiapo, associé des programmes NDI Daoukro.
Actuellement, c'est vrai, il y a la calmie, mais il faut préparer les gens aux différentes éventualités. On ne sait jamais.
Des participants reviennent sur le sens de leur engagement.
Youssouf Yakwe, coordinateur des communautés Daoukro. Tout le monde a été témoin, Daoukro était complètement paralysé. C'est pourquoi on s'engage à le faire. Vaut mieux prévenir que guérir. On ne va pas reculer.
Kwasi Kwaku, notable à la cour de Nana Kwame Kofi, jeune chef de village de Daoukro. Il est bon de prendre des dispositions pour que ce type de conflit qu'on a croisé ne survienne plus entre les groupes.
Les femmes en ont souffert, selon Lucie Kwaku.
Je suis dans le comité de paix parce que généralement, quand il y a les conflits, les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. D'abord, elles ont leur mari au front. Quand elles ont des enfants à bas âge, elles ne peuvent rien faire, ne peuvent pas fuir pour les laisser. Surtout, la situation la plus compliquée, c'est lorsqu'elles sont en situation de grossesse.
Il y a aussi les personnes en situation de handicap.
On tape souvent Marie-Claude, vice-présidente chargée des personnes en situation de handicap. D'abord, le handicap, vous savez que c'est une personne en situation de vulnérabilité, un problème de mobilité et qu'il y a une situation de conflit. Mais nous, on fait comment? Nous, on paye lourd.
Un programme financé par l'USAID. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
On prend la direction de Boaké où la nuit du destin a été célébrée par la communauté musulmane dans la nuit de vendredi à samedi dernier autour d'une conférence sur l'union et la foi à la grande mosquée de la ville. Élus locaux et autorités administratives étaient présents à cette cérémonie religieuse. Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké, y était.
À la lumière de son exposé, Oustaz Adama Kourouma, imam de la mosquée principale du quartier commerce de Boaké, a mis en relief les valeurs d'union, de foi et de cohésion devant caractériser une nation.
Une grande nation ne peut pas se bâtir sur du sable. Elle ne peut se bâtir que sur des valeurs telles que la foi, telles que l'union. Ce sont ces deux valeurs qui sont les socles de tout développement, de tout progrès de toutes les nations. La dernière CAN est une preuve manifeste vraiment de cette situation pour dire que nous sommes sur le bon chemin. Parce que avec la victoire, il y a eu vraiment une union. Et là, on a vu les barrières s'estomper. Les barrières ethniques, tribales, religieuses. Et nous avons vu une véritable nation en train de s'éclore. Alors vivement que des événements comme ça nous permettent de retrouver l'unité.
Au nom d'Amadou Koné, maire de Boaké, le docteur Paul Dakuyo a plaidé pour que les imams dans leur prosternation nocturne élèvent des prières envers Allah, le Dieu Tout-Puissant, afin que la Côte d'Ivoire continue de vivre dans la sécurité et la paix. Assurance donnée par l'imam Idriss Sidibé, secrétaire général du COSIM de la région de Boaké.
Plus de 400 imams sont présents ou représentés ici aujourd'hui à la grande mosquée de Boaké pour prier pour le pays, prier pour le chef de l'État, prier pour monsieur le maire, Koné Amadou et tout son staff, prier pour le conseil régional, pour le département, prier pour la ville de Boaké.
À l'occasion de la nuit du destin ou encore Laylat al-Qadr à Boaké, l'intégralité du Coran a été lue trois fois en vue de préserver la paix en Côte d'Ivoire. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Après Boaké, nous mettons le cap sur Kaniasso, chef-lieu du département situé dans la région du Folon, où le maire de la commune a convié les fonctionnaires musulmans et chrétiens de la localité à une rupture collective du jeûne de Ramadan. En ligne de Kaniasso, Bakary Touré-Labas, notre correspondant dans la région du Folon.
Envie de mettre en relief, en ce mois de jeûne de Ramadan, la valeur de solidarité, du partage et du raffermissement des liens de fraternité, le maire de Kaniasso a convié les fonctionnaires de la localité à un repas collectif. Djara Souba, Anjouman.
Alors, ce soir, ce n'est pas les discours, c'est de partager un repas ensemble et fraternellement pour que nos liens soient encore plus consolidés dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes.
Le premier magistrat de la commune dite de l'excellence a profité de l'occasion pour réaffirmer encore une fois ce qui suit.
Je sais, en tant que cadre, la crème que vous représentez dans notre département.
Venu des quatre coins du département de Kaniasso, les invités de le lieu ont apprécié ce moment de convivialité.
Djakité Mamadou, instituteur à Korouble. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette zone-là. Aucune autorité administrative n'avait organisé une cérémonie de ce genre. Convier tous les fonctionnaires, les musulmans et les chrétiens à une cérémonie.
Siloué Madi Diawa, directeur d'école à l'EPP Siola. Nous sommes heureux de faire la rupture ensemble. C'est un moment de communion, d'union, de fraternité.
Au nom du corps préfectoral, Hassane Kofi Félix, sous-préfet de Kaniasso, a pour sa part salué l'esprit de la présente initiative. Bakary Touré-Labas, Kaniasso, Radio de la Paix.
Du nord de la Côte d'Ivoire, nous partons dans la région du Go où, pour acheminer les marchandises à Gagnoa, les représentants locaux de la FENACSI, Fédération Nationale des Acteurs de Commerce de Côte d'Ivoire, ont recours aux frais de convoyage, en d'autres termes, regroupent les marchandises de divers clients dans un même camion. Au regard des tracasseries qui engendrent des pertes d'argent, le président local de la FENACSI, Diallo Alpha Telli, plaide pour la reconsidération du nombre de points de contrôle, aussi bien qu'il exhorte les commerçants de se munir de tous les papiers afférents à leurs marchandises. Suivant Diallo Alpha Telli dans des propos recueillis par notre correspondant régional Abel César Kassim pour plus de détails.
D'Abidjan jusqu'à Gagnoa, nous avons près de 11 postes de contrôle. Nous avons initié le convoyage, les frais de transport. Mais quand notre structure au niveau national qui s'en occupe vous fait le point des tracasseries routières, il faut dire que l'activité risque de mourir d'ici peu. Parce que quand on travaille, c'est vrai, on aide nos commerçants. Mais en retour, nous aussi, nous sommes des pères de famille. Mais si on n'y gagne rien, nous aussi, nous ne sommes pas en règle. Les commerçants ne veulent pas se mettre en règle. Ça aussi, ce n'est pas normal. C'est un appel que nous lançons à tous nos commerçants qui viennent au niveau de nos points de convoyage, qu'ils prennent leurs documents. La facture normalisée surtout, mais souvent dans la précipitation, on n'a aucun document. Et c'est quand la douane vient, on appelle et puis le document arrive. Mais là aussi, c'est une faute, parce que c'est une infraction. En tant que citoyen, où on te demande tes pièces, que ce soit dans marchandise, de ta personne physique, tu as le droit de donner les pièces sur le champ. Mais quand c'est après, à travers la douane aussi, bon, les autres forces de l'ordre sécuritaire aussi, par moment, contrôlent. C'est leur droit de contrôler, mais il faut savoir que c'est une activité. Il faut que le gouvernement puisse nous aider. Vraiment à pouvoir aider aussi nos commerçants.
À l'instant, Diallo Alpha Telli, président local de la FENACSI de Gagnoa. On revient à Abidjan où le Cercle des Ébonis, une organisation regroupant les lauréats du prix Ébonis, a procédé à sa sortie officielle le vendredi 5 avril à l'hôtel Tiama au Plateau. Cette cérémonie parrainée par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été aussi l'occasion de rendre hommage aux membres fondateurs de l'UNJCI. Didier Blé.
Regroupant les différents lauréats du prix Ebony organisé par l'UNJCI, le Cercle des Ebony a le mérite d'exister, nous dit Yao Noël, membre fondateur et premier président de l'UNJCI.
L'action du jeune confrère Claude Franck Abouk et ses amis est salutaire. Merci à eux, tous mes voeux de succès à ce Cercle des Ebony pour l'excellence et l'épanouissement du journaliste ivoirien.
Zoro Epiphane Balo, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et parrain de la cérémonie, a au cours de sa communication invité les journalistes et partant les populations à être des vecteurs de démocratie et de transparence.
Bien que certains indicateurs de gouvernance soient à des niveaux acceptables, d'autres en revanche restent encore loin en arrière des valeurs moyennes ou des valeurs médians et l'État de Côte d'Ivoire est conscient que des efforts additionnels doivent continuer de se poursuivre.
Une adresse reçue positivement par le président du Cercle des Ébonis, Claude Franck About, qui se dit heureux d'avoir mis sur pied cet étalage de journalistes expérimentés.
Une bonne presse et une bonne gouvernance. On a le même but, même objectif. On veut regrouper tous ceux qui ont été consacrés Ebony ou Super Ebony depuis 30 ans, les valoriser et les promouvoir. Mais on veut aussi une veille stratégique pour la société ivoirienne. On a beaucoup de potentialités, beaucoup d'intelligence. On veut mettre ça ensemble pour être utile à la Côte d'Ivoire.
Cette cérémonie s'est refermée par l'intronisation du président du Cercle, mais aussi des distinctions remises à des hommes de médias et certains partenaires.
Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, qui a fait appel de son exclusion des élections générales prévues fin mai en Afrique du Sud, sera fixé mardi par la justice sur sa participation ou non au scrutin. Zuma, 81 ans, était présent ce lundi au tribunal de Johannesburg, qui a examiné son recours pour faire annuler une récente décision de la commission électorale EEC, l'excluant des listes de candidats. Et puis toujours dans cette partie de l'Afrique, au Mozambique, les recherches se poursuivent toujours ce lundi au large du pays pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 97 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé sur lequel de nombreuses familles paniquées s'étaient précipitées après des rumeurs sur une épidémie de choléra. L'embarcation qui transportait quelques 130 personnes dont de nombreux enfants s'est trouvée en difficulté dimanche en début de soirée alors qu'elle se dirigeait vers une petite île située au large de la province septentrionale de Nampula. C'est avec ce chapitre que nous refermons cette édition, mais avant le rappel des titres. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Kone Mamadou, est décédé ce lundi 8 avril 2024 à l'âge de 72 ans. Et puis à Daokro, les membres des comités de paix en médiation ont été formés par le NDI dans le cadre du projet Cordial. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma connaîtra demain mardi son sort sur sa participation ou non aux prochaines élections générales de mai 2024. Merci de nous avoir suivis. Dans un court instant, le magazine Economia présenté par Jean-Claude Comé.